Dimanche dernier, j'ai essayé de vous faire toucher du doigt que nous avons toujours à lutter contre des hérésies, puisque c'était dimanche dernier, le dimanche de triomphe de l'orthodoxie. Et je vous ai montré quelques aspects des hérésies contemporaines. Et nous fêtons aujourd'hui Saint Grégoire Palamas. Saint Grégoire, je ne vais pas vous faire de la théologie, vous présenter Saint Grégoire dans son intégralité aujourd'hui, mais Saint Grégoire a défendu les moines du Mont Athos, a défendu les hésicastes, c'est-à-dire ceux qui prétendent que par la grâce de Dieu, appelé par la prière et l'ascèse, la personne, l'ascète, peut être remplie de quelque chose de la vie divine, c'est-à-dire par ce qu'on appelle les énergies divines, qui n'est pas la puissance musculaire, évidemment. Il a eu beaucoup d'opposants à cela, mais c'est fondamental. À tel point que un garçon tout à l'heure me faisait part d'une réflexion qui lui a été faite, que au sujet de l'authenticité ou non du tombeau du Christ à Jérusalem, où certains pensent l'avoir découvert ailleurs que là où nous avons la tradition de le vénérer. Et la personne, l'archéologue parlant de ça, si je ne me trompe pas, a dit « Mais moi, ça m'est égal que le lieu du tombeau soit authentique ou qu'il ne le soit pas, parce que ce n'est pas le lieu même qu'on vénère, c'est la personne qui a été ensevelie et qui en est ressuscitée. » Eh bien ça, c'est pas du tout une vision orthodoxe. Saint Grégoire, justement, nous a montré que une personne sanctifiée par la présence, par la force du Saint-Esprit, ayant reçu en elle, je parle de la personne, mais aussi des lieux, et même aussi des objets qui ont reçu la présence divine, ont acquis les propriétés qui n'étaient pas la leur, les propriétés de l'Esprit Saint, de la vie divine. Et je prenais l'exemple traditionnel, vous le connaissez tous ou presque tous par cœur, c'est les pères qui un objet métallique que vous plongez dans du feu acquiert les propriétés du feu, donc le feu et le métal sont liés. Le métal ne devient pas du feu et le feu ne devient pas du métal, mais ils sont complètement liés l'un et l'autre. La cuillère reste une cuillère, elle ne devient pas une troisième chose. Elle est un mélange, elle est une union, plus exactement pas un mélange, elle est une union du métal et du feu. Ainsi nos êtres et ainsi les choses. Et pour en revenir au tombeau du Sauveur, par exemple, c'est simplement à titre d'exemple, si le Sauveur ayant été enseveli là, ayant été glorifié par la résurrection à cet endroit-là, le lieu lui-même est rempli de quelque chose rempli des énergies divines, quelque chose de la nature de Dieu qui se communique à l'homme et aux hommes. C'est ce que nous représentons sur les icônes. Par exemple, avec le lacis, évidemment, je ne vais pas en trouver là. Vous avez des icônes où vous avez sur les vêtements du Christ, par exemple, si c'est le cas ici, le vêtement du Christ avec la mère de Dieu, vous voyez qu'il y a sur son vêtement, il y a un fin rayonnement d'or, comme des toiles d'araignée, si vous voulez, en or. Ça s'appelle de lacis. Et ceci montre les énergies divines qui se communiquent ou qui sont présentes dans la personne et qui rejaillissent même sur les vêtements. C'est comme ça, par exemple, que les apôtres, que du temps des apôtres, il y avait beaucoup de guérisons qui avaient lieu sans que l'apôtre lui-même n'intervienne, mais par la, par le toucher des vêtements. Et même, saint Paul raconte que même quelquefois l'ombre d'un apôtre paraît passant en couvrant momentanément un malade, le guérissait. Voilà ce que saint Grégoire nous a un élément expliqué globalement et grossièrement de ce que nous a apporté saint Grégoire. Mais ça, du temps de saint Grégoire, beaucoup s'y sont opposés et s'y opposent encore aujourd'hui. Parce que ça paraît trop merveilleux. Ça paraît trop extraordinaire. Ça paraît hors norme. Bien sûr que c'est hors norme. Puisque c'est la participation de la vie divine, la participation de l'inconnaissable, de l'incompréhensible, de l'invisible, qui vient illuminer de sa gloire ce qui est créé, ce qui est matériel. Donc on refuse quelquefois ceci parce qu'on n'ose pas l'espérer. Ce qui m'amène à dire que, au moins dans nos milieux, parce que ce n'est hélas pas partagé par tout le monde, la foi, beaucoup l'ont. Pas la foi en au-delà, mais la foi en Jésus, Fils de Dieu, seconde personne de la Trinité, incarné, mort et ressuscité, et monté aux cieux, pour nous englober, pour nous prendre en lui, et pour nous élever au royaume des cieux. Ça, on y croit, beaucoup y croient. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que bien qu'on dise que c'est la foi qui sauve, d'abord, ce n'est pas exactement vrai, parce que c'est Dieu qui nous sauve quand on a la foi. On ne se sauve pas soi-même. Mais aussi, il faut que la foi soit effective, soit pas simplement une croyance. Et il y a un aspect de notre vie qui dépasse la foi, si je puis dire, et qui la conditionne, c'est l'espérance. Et souvent, nous manquons d'espérance. Nous n'osons pas espérer. Et espérer quoi? Nous avons, comme je l'ai montré d'une autre manière dimanche dernier, nous sommes entourés d'idoles et nous adorons ces idoles. Nous avons foi et nous avons espérance dans les idoles. Loin de moi de condamner quoi que ce soit de ce que je vais dire. Des exemples que je vais vous donner. La science, la médecine, les études ne sont pas des choses mauvaises en elles-mêmes. Mais on en fait des idoles parce qu'on met toute notre espérance dans ces choses humainement bonnes que sont la science, les études, les arts, les loisirs, on se donne à nos loisirs, les écrans sous toutes leurs formes, les relations virtuelles que l'on a à travers les artifices de l'électronique et des communications, par exemple avec Internet, sans compter les choses mauvaises auxquelles on a accès, par exemple la pornographie qui vient salir nos âmes, tout cela, ce sont des idoles. Et nous en sommes tellement remplis que nous n'avons pas le temps, nous n'avons pas le courage, ni l'audace, comme on dit juste avant notre Père, d'espérer en quelque chose d'autre. Nous avons tout à portée de la main. nous sommes devenus des riches. Je ne parle pas des riches pécuniairement, parce que beaucoup ne le sont pas, mais des riches intérieurement. Même les pauvres sont riches, riches d'eux-mêmes, riches de cette captivité par les choses, des choses humaines. Remplis de ces idoles, qu'est-ce que nous avons encore à espérer? Qui ose espérer ce que l'Église, depuis 2000 ans, met à notre disposition et nous enseigne? Peut-être mal, je parle pour moi, je ne parle pas pour l'Église en elle-même, mais on semble, ça semble que nous avançons, nous n'avançons pas dans, le, dans cette espérance. Et l'espérance, c'est cette pratique de la foi qui nous fait attendre avec certitude ce qui nous a été promis d'une manière ou d'une autre. Souvent, c'est dans nos conversations avec les uns et avec les autres, ici même, nous avons l'impression que Dieu dort, que Dieu sommeille ou qu'il se tait. Souvent, nous avons l'impression, nous disons ou nous entendons dire, si Dieu existait, il serait forcément bon. Et s'il était bon, pourquoi laisserait-il le monde ou les malheurs, les catastrophes, les scandales arriver? Donc, cette déréliction, cet sentiment d'abandon de Dieu nous pose une question. Est-il normal? À cause de quoi le Seigneur semble dormir? Dort-il réellement? Nous laisse-t-il tomber? A-t-il agi dans le monde à une époque, soit au moment de la création, soit quand il parlait prophète, soit quand il s'est incarné, quand il a été parmi nous? Et depuis, est-ce que l'expérience, notre expérience de la présence de Dieu n'est pas en train de décroître et de voir de s'effacer? Certes, c'est une difficulté, et certainement une difficulté pour tous. Mais si nous avions l'expérience, nous l'avons d'une certaine manière, l'Église la met à notre disposition, mais nous avions psychologiquement, disons, ou intellectuellement, l'expérience de ces choses de l'au-delà, est-ce qu'il y aurait encore de la foi et est-ce qu'il y aurait de l'espérance? On espère pas quelque chose que l'on a. On espère quelque chose que l'on n'a pas, mais qui nous est promis et qui doit nous être donné ou auquel on doit accéder. Vous croyez que quand il était à Gethsémani, vous croyez que le Seigneur Christ avait des garanties sur ce qui allait se passer après la mort qui se profilait devant lui dans quelques heures? S'il avait vraiment, s'il vivait, il n'y a pas à en douter, la kénose dont nous parlons souvent, il faisait taire volontairement en lui l'exercice précisément de sa gloire pour être comme tout homme acculé à cette apparence d'abandon de Dieu qu'il faisait aller jusque au seuil du désespoir dans lequel il n'est pas tombé. Eh bien, nous n'avons pas davantage nous-mêmes de garanties. Les garanties, elles nous ont été données par la présence, la prédication, les miracles du Christ, transmis par les apôtres, puis par les pères de l'Église, et finalement par toute l'Église jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est notre garantie. Mais la garantie, elle n'est pas de l'ordre de l'expérience. Elle n'est pas complètement, parce qu'il y a aussi un peu de ça, elle n'est pas complètement, elle n'est pas uniquement de l'expérience de ce qui doit, venir. Si bien que si l'on pouvait, si l'on devait dire de quoi on manque aujourd'hui, je pense qu'il faudrait dire qu'on ne manque pas de foi, mais on manque certainement d'espérance. On manque d'audace d'audace de croire en ce que le Seigneur nous a promis et que l'on ne voit pas se réaliser. Cette expérience-là amène, peut nous amener à nous aussi, comme le Christ, au bord du désespoir. Mais est-ce que le Seigneur va se manifester? Va-t-il enfin faire quelque chose? Et nous voudrions avoir une réponse immédiate. Mais précisément, le salut qui nous est promis est cette réponse à notre appel de Dieu, à notre attente de Dieu. C'est avec le Christ, en supportant l'apparent silence de Dieu et en continuant à l'aimer et à avoir l'audace d'espérer l'acquisition ou le don, l'obtention du salut, c'est cette audace-là qui est déjà la réponse à notre attente. Le Seigneur nous dit, vous ne me chercheriez pas si vous ne m'aviez pas trouvé. La recherche même de Dieu, qui est la vôtre et qui est celle de toute l'Église, est précisément la mise en œuvre de cette espérance comme vertu de consacrer nos vies à l'obtention de ce salut qu'on ne voit pas à l'œuvre aujourd'hui, mais auquel nous croyons, que nous ne voyons pas à l'œuvre parce que nous avons conscience d'être pécheurs, parce que nous savons que nous sommes indignes de recevoir de tels dons, nous sommes indignes d'être divinisés, car c'est ça finalement la promesse qui nous est faite. Et certes, nous en sommes indignes, mais cette indignité-là, d'une certaine manière, est nécessaire. Enfin, je ne veux pas dire que l'indignité soit nécessaire, mais la prise de conscience de cette indignité-là est nécessaire pour nous faire attacher davantage au Christ par l'espérance. Un autre aspect, et c'est le dernier que je vais aborder aujourd'hui, c'est que nous avons donc l'audace de penser que Dieu est à l'œuvre dans ce monde et en nous-mêmes, alors que nous avons l'impression qu'il se pervertit et que nous sommes pervers ou pervertis, c'est-à-dire pécheurs. Nous avons l'audace de croire cela. Et ce que Saint Grégoire nous montrer dans la défense de Saint Hésychaste, c'était finalement que le monde peut être transfiguré en partie, autant qu'il peut, il peut le faire sur terre, peut être transfiguré par les énergies divines. Mais le contraire est vrai aussi. Je veux dire par là que c'est la vocation de l'homme, de tout homme. C'est la vocation de tout homme de spiritualiser le monde, d'emplir la terre, comme il est dit dans la Genèse, de l'emplir de la vie de l'Esprit Saint pour le diviniser. Et nous avons aujourd'hui l'exemple de Saint Gérasim qui par sa bonté, vivait en harmonie avec un lion, comme nous avons l'exemple de Saint Séraphin, et plus proche de nous, historiquement, de Saint Païsios, qui vivait avec des serpents. De retrouver, l'homme est appelé à retrouver cette proximité avec la création de Dieu dont il est normalement le maître après Dieu, parce que Dieu lui a confié cette vocation-là. C'est donc par notre conversion, par notre foi et par l'espérance dont je parle aujourd'hui, que nous pouvons participer à la déification du monde, à la transfiguration du monde et des hommes. Mais inversement, si nous nous enfonçons dans le non-repentir, si nous enfonçons dans la non-espérance, donc finalement dans la non-foi, plutôt que d'aider le monde à se sauver, nous poussons le monde à une révolte, à une damnation plus grande et immédiate. On parle beaucoup du réchauffement climatique, des espèces animales qui disparaissent, et de beaucoup d'autres choses, que je ne conteste pas, évidemment. Et cependant, quel est le remède qu'on peut apporter à ça? Croyez-vous que ce soit uniquement en développant davantage la science, en mettant des puces électroniques dans le cerveau des animaux, finalement des hommes, en créant une intelligence artificielle, en essayant de remplacer Dieu en créant un autre homme par fabrication humaine? Croyez-vous que c'est comme ça qu'on va apporter le salut au monde? Autrement dit, c'est par notre conversion, par notre prière, par notre espérance pratique et par notre foi que l'on peut réharmoniser le monde. Et si on ne réharmonise pas le monde, on assiste au contraire à des catastrophes de plus en plus grandes. Vous voyez, par exemple, je ne fais pas de relation physique entre un aspect et un autre, mais vous entendez parler de ces animaux qui se suicident, des animaux qui, en bande, vont crever sur une côte. Vous entendez partout, non seulement les rumeurs de guerre, mais vous voyez la guerre tout autour de vous et tout autour de nous et entre nous quelquefois. Vous voyez les catastrophes que j'évoquais tout à l'heure, par exemple avec le réchauffement climatique. N'ayez pas peur, je ne vais pas faire de l'écologie là tout de suite, hein, c'est pas pour vous initier à ça. Nous voyons de plus en plus les catastrophes naturelles avec des volcans. Il y a toujours eu des volcans qui ont explosé, mais on dirait qu'aujourd'hui la Terre est en train d'entrer en ébullition, si je puis dire. Eh bien, c'est tout à fait logique, c'est normal. À partir du moment où celui qui était tenu, qui avait pour vocation de tenir et de transfigurer la création, abandonne sa vocation et se sert égoïstement de cette même nature plutôt que de la transfigurer. Autrement dit, et là je fais un tout petit peu d'écologie, la véritable écologie, mais je ne condamne pas l'autre pour autant, mais la véritable écologie, c'est la sanctification de nos personnes. C'est la remise à Dieu de notre être, l'adoration de Dieu et l'expérience de la vie de Dieu, du rapport que l'on a avec Dieu, qui peut réharmoniser le monde, qui peut tout simplement l'harmoniser et lui donner son but. En attendant, si nous ne le faisons pas, nous avons évidemment l'impression que Dieu abandonne le monde, que Dieu nous laisse errer là où on veut aller, et pour cause, puisque si on dit à Dieu, maintenant c'est moi qui prends la place, c'est moi qui gère le monde, Dieu, dans son humilité, s'écarte et nous laisse faire, en quelque sorte. Et ça amène toutes les déviations et les catastrophes. Et je vois, avec la fête de Saint-Grégoire aujourd'hui, au moment, ce début, presque début de Carême, je vois cet appel, justement, à une conversion de foi, mais surtout une conversion d'espérance qui nous achemine, qui va nous acheminer vers la résurrection en passant par la croix, le troisième dimanche, avec l'illumination du carême par la croix, et puis finalement la crucifixion, toute la semaine sainte, la crucifixion et la résurrection du Christ, cette expérience annuelle que nous faisons d'une conversion pendant le carême, et l'image, le symbole de la conversion encore plus fondamentale, plus générale, de toute notre vie et de tout le monde que nous sommes tenus par vocation à amener à sa plénitude, qui est la reconnaissance expérimentale du Père, du Fils et du Saint-Esprit, auquel reviennent la gloire, l'honneur et l'adoration.